Bon, il n'est nul besoin de présenter Antoine Compagnon, professeur ici depuis 2006, chaire de littérature française moderne et contemporaine, mais je crois que l'intitulé est plus vaste.
Oui, j'ai oublié, mais...
Il y a histoire, critique...
Histoire, critique, théorie...
Enfin, vous êtes fait élire sur un projet, Antoine
oui,
Compagnon.
Oui,
enfin.
Oui, que j'ai rempli, assurément.
Bien sûr. Vous avez, il y a peu, consacré une série de cours et de séminaires à Marcel Proust, et puis aussi une série de cours et de séminaires au Chiffonnier de Paris, qui a donné lieu à ce très beau livre chez Gallimard, un livre illustré, ça vous a donné le goût de la photographie, et puis le goût de l'histoire sociale de Paris et de ce quartier dans lequel se situe le Collège de France. Alors, deux, trois annonces un peu drastiques, une heure. Qu'est-ce que c'était votre méthode à la Sorbonne, quand vous enseigniez à la Sorbonne ?
À la Sorbonne, les étudiants n'étaient pas toujours très disciplinés. Alors je disais, si quelqu'un sort avant la fin de l'heure, j'arrête mon cours.
Oui, mais enfin, ici, on est libre. Le principe du Collège de France, c'est liberté, publicité, gratuité.
Oui, mais tout de même.
Alors, au début du Collège de France, quand on ne s'y exprimait qu'en latin, j'ai lu qu'il y avait des placards dans le quartier, rédigés eux aussi en latin, qui annonçaient le thème des leçons, le thème d'aujourd'hui.
Alors, le thème d'aujourd'hui, j'ai appelé cela, le Collège de France, lieu de mémoire parisien, pour parler de l'insertion de cet établissement dans le quartier et dans Paris. Et vous l'avez annoncé, c'est lorsque j'ai fait ce livre sur les chiffonniers de Paris que je me suis intéressé au quartier, ce qui n'était pas du tout dans mes cordes, qui ne correspond pas tellement à la littérature française, histoire, critique et théorie. Le quartier du Collège de France était le haut lieu de la chiffonnerie au XIXe siècle. Au fond, entre la place Maubert, d'un côté, et la rue Mouffetard. Nous étions dans le 12e arrondissement parisien, qui est devenu le 5e.
En 1860.
Oui,
il y avait un 13e, d'ailleurs.
Il n'y avait pas de 13e. Si vous lisez Balzac, vous vous rappelez que l'on disait qu'on s'est marié à la mairie du 13e arrondissement. Ça voulait dire qu'on vivait en concubinage. Hein. C'est comme ça chez Balzac. Hein. Donc le 12e était le dernier arrondissement de Paris, dans le Paris de la barrière des fermiers généraux. C'était le plus pauvre, le plus misérable. C'était celui où il y avait le plus de morts lors des épidémies de choléra. 1832, la grande épidémie de choléra. La mort de Champollion, me semble-t-il.
Qui était professeur au Collège de France.
Qui était professeur ici, dont vous avez la statue.
Ça met un lien, ça, entre le collège et le quartier.
Les professeurs,
au moins un.
Les professeurs du Collège de France mouraient du choléra, comme les habitants du quartier, qui étaient donc dans une très étrange cohabitation entre l'université, la Sorbonne, le collège et la misère. Parce que les chiffonniers étaient les emblèmes de cette misère, mais il y avait beaucoup d'autres petits métiers parisiens misérables.
Un mot encore sur les chiffonniers, puisque c'est votre travail sur l'épopée des chiffonniers qui vous a donné envie de monter cet entretien aujourd'hui. Les chiffonniers, dites-vous, ils étaient en avance sur la révolution industrielle numéro 2 et ils profitaient du retard que connaissait la révolution industrielle numéro 1, c'est-à-dire que les progrès de la chimie n'avaient pas été suffisants, ni non plus les progrès du nettoiement de Paris, et ça leur donnait un rôle, pendant une période X, extraordinaire.
Alors, le grand âge des chiffonniers de Paris, c'est 1820-1880. Comme par hasard, c'est le grand âge du développement du Collège de France. Il y a une coïncidence parfaite entre ces deux périodes. C'est pendant cette période que le Collège de France est passé d'une vingtaine de chaires à une cinquantaine de chaires comme nous sommes aujourd'hui. Et alors les chiffonniers, vous l'avez rappelé, s'ils sont si essentiels à l'économie pendant ces trois générations, pendant ces 60 années, c'est parce que la presse s'est développée, la librairie s'est développée, les journaux, il y a une énorme demande de papier parce que la mécanique, première révolution industrielle, c'est les machines, donc on a des presses qui fonctionne avec une grande productivité, mais on n'a pas de papier. Le papier est toujours fait avec du chiffon, et il y a donc une pénurie de chiffon pour produire le papier indispensable au développement de l'éducation, au développement de la lecture, au développement de la presse. Et à partir des années 1880, eh bien, on fabrique le papier avec la cellulose du bois.
Oui, mais
donc, on n'a plus besoin des chiffonniers.
À la période qui nous intéresse, on va surtout s'intéresser au premier 19e siècle, il n'y a pas de poubelle non plus.
Alors voilà, il y a une coïncidence parfaite, là aussi, entre la fin des chiffonniers et l'invention de la poubelle. Le préfet Poubelle a inventé la poubelle en 1883. Introduit la poubelle en 1883, donc imposé le récipient fermé avec un couvercle. Les chiffonniers ont protesté, et ils ont protesté très vigoureusement, puisque leur métier était rendu impossible. Jusque-là, on déposait le tas d'ordures devant sa porte, et le chiffonnier fouillait pour récupérer ce qu'il y avait de la valeur. Dans la poubelle, tout est mêlé, tout est écrasé, les chiffons sont souillés, les chiffonniers ont protesté, mais c'est le préfet Poubelle qui l'a emporté. Et c'est très symbolique, puisqu'en 1832, au moment de ce fameux choléra, le préfet de police avait voulu imposer l'évacuation des ordures de Paris tous les jours, sans que les chiffonniers puissent fouiller. Il y avait eu une émeute des chiffonniers, et en 1832, c'était les chiffonniers qui l'avaient emporté. Et ça nous montre très bien la différence. 1832, les chiffonniers gagnent contre le préfet, pour des raisons économiques, c'est une confrérie puissante. 1883, ils perdent face au préfet de police. Mais voilà ce qui m'intéressait, c'était la coïncidence entre ce grand âge de la chiffonnerie et, au fond, ce qui est un peu l'âge d'or du Collège de France, avec des élections comme celle de Renan, de C, et puis on pense à, évidemment, Michelet, jusqu'à Renan, jusqu'à Berthelot, Claude Bernard. C'est véritablement la grande époque du Collège, mais dans un quartier qui est sordide.
Alors, on va regarder toutes les images que vous avez sélectionnées pour nous, Antoine Compagnon. Alors, on se met dans la peau de celui ou de celle, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui viennent écouter les cours au Collège de France, de celui ou de celle qui vient écouter Michelet, Mickiewicz, Edgar Quinet, dans la première moitié du 19e siècle. Là, c'est le Collège impérial, donc on est au tout début du 19e siècle, j'imagine.
Alors, ça, c'est une vue qu'on date de 1810. Bon, vous voyez tout de suite qu'elle est fausse, puisque cette partie-là n'a jamais existé. C'est une vue idéale du collège. Vous reconnaissez donc le bâtiment de Chalgrin, qui date de 1772. Je vais parler tout à l'heure de cette extension qui est très importante, mais celle-ci n'a jamais existé. Donc c'est une vue idéale. Je pense qu'elle est montrée sans doute à côté. C'est tout à fait factice. Voici un plan qui nous montre bien où nous sommes, et ça, c'est sous l'Ancien Régime, à la fin du... c'est un plan qui date de 1735. On est donc sous l'Ancien Régime, et voilà le pâté de maison qui correspond au Collège de France. C'est un plan très intéressant, puisque c'est celui des fontaines de Paris, des points d'eau de Paris. Et vous voyez qu'il y a là le puits Certain, c'est un puits très fameux de Paris, et c'est là où on va chercher l'eau. C'est devant le restaurant Le Coupe-Chou, qui existe toujours. Il est à ce coin-là, le restaurant Le Coupe-Chou. Devant, il y avait donc ce puits. Mais au XVIIIe siècle, les puits de Paris sont tous contaminés. La nappe phréatique sous Paris est contaminée par les boues de Paris. Paris est couvert de boue, c'est-à-dire en gros d'excréments. Et donc toute l'eau que l'on récupère dans les puits, Elle est nauséabonde et elle n'est pas consommable. Donc le puits qui est là est pourri. Vous voyez qu'il y en a un autre ici qui est pourri. Et donc on crée des fontaines. Donc cette place qui est devant le Collège de France, elle est célèbre par sa fontaine, qui s'appelle la fontaine Saint-Benoît, dans ce plan des points d'eau de Paris. Elle est derrière l'église Saint-Benoît. L'église Saint-Benoît, elle est sur le site de la Sorbonne, dans l'axe de la rue devant le Collège. Et alors cette fontaine, je me suis souvent demandé, je me suis demandé quand j'ai commencé à chercher, où pouvait-elle être, puisque cette fontaine est célèbre devant le collège. Et bien elle était là, selon ce plan. Et vous voyez le site du collège.
Alors attendez, je vous arrête un instant, mais le Collège de France, il existe depuis le XVIe siècle, il n'a pas de bâtiment, c'est un collège virtuel?
Alors, le Collège de France n'a pas de bâtiment à soi, jusqu'au bâtiment de Chalgrin. En 1772. Jusque-là, il occupe les bâtiments du collège de Tréguier et du collège de Cambrai. On est sur la place, la place qui est devant le collège s'appelle la place de Cambrai.
Mais qu'est-ce que c'est le collège de Tréguier, le collège de Cambrai?
C'est le collège des villes de Tréguier et des villes de Cambrai qui ont de tout petits bâtiments dans lesquels ils envoient leurs étudiants. Et au fond, ce que fait le régime qui n'a pas, ce que font les rois successifs, François Ier, Henri IV, il y a toujours eu de grands plans pour construire un collège, mais il n'y a jamais d'argent. Et donc, on exproprie le collège de Cambrai pour le collège de France. Et ces collèges des petites villes, en fait, sont pauvres. Ils ont 3 étudiants, 6 étudiants. Et c'est pourquoi on peut, en gros, se saisir de leurs locaux.
Néanmoins, quand on a fait des fouilles ici, pendant les travaux de transformation des années 1990, on a trouvé des traces, des thermes, mais aussi du collège de Cambrai.
On trouve les traces de ces, vous allez les voir, de ces collèges qui étaient sous ce site. Exactement, le site avec les deux ailes que vous avez autour de la cour, c'est les deux ailes de ces collèges antérieurs au Collège de France. Alors, vous voyez, là, sur ce plan, on voit bien notre pâté de maison et la Sorbonne, la chapelle de la Sorbonne, Plessis les Jésuites, aujourd'hui le, Louis le Grand. Plan suivant, ça c'est un plan très intéressant puisqu'il vous montre exactement où sont les collèges. Le collège royal, c'est donc nous, c'est une aile qui correspond à peu près à l'aile actuelle de la bibliothèque. Le collège de Cambrai, il est là, donc ça c'était Tréguier, ça c'est Cambrai. Et vous voyez que c'est complètement enclavé. Vous voyez la fontaine. La fontaine qui est là, la rue Saint-Jacques, la rue Saint-Jean-de-Latran, le puits Certain qui est là, et la rue Fromentel. Alors, c'est très intéressant puisque c'est un plan qui est à la Bibliothèque nationale. Celui-ci, il n'est pas daté, mais on voit qu'il est de la fin du XVIIIe siècle. C'est un projet pour aligner, d'alignement de cette rue et de déplacement de la fontaine qui est un obstacle à la circulation.
Mais quand je lis place Cambrai, c'est une rue.
Cette place Cambrai est en fait très étroite. Elle fait sans doute, j'avais calculé dans le livre, j'ai oublié, la largeur, je crois que c'est 3 mètres. Hein, c'est pas véritablement une place. 3 mètres entre le collège et cet immense enclos Saint-Jean-de-Latran dont je parlerai tout à l'heure, puisqu'en face du collège, il y avait une forteresse. Une forteresse Saint-Jean-de-Latran.
C'est-à-dire une commanderie de l'ordre militaire.
Commanderie de l'ordre des hospitaliers de Jérusalem, qui est devenu l'ordre de Malte, l'ordre de Rhodes. Donc c'était une forteresse avec une grande tour, qu'on verra tout à l'heure, qui était juste en face du Collège de France. De la fenêtre de mon bureau, je n'aurais vu que la commanderie de Saint-Jean-de-Latran, à laquelle on reviendra. Vous voyez sur ce plan un projet du XVIIIe siècle pour redessiner cette rue. Et voici une gravure de la fin du XVIIIe siècle à la BHVP. Elle est datée de 1789. Et là, on voit bien que la partie qu'on avait vue dans le plan idéal n'existait pas. Et que le bâtiment de Chalgrin est complètement enclavé dans ces bâtiments jusqu'à la rue Saint-Jacques. Et voilà l'église Saint-Benoît qui était juste en face de la rue Saint-Jacques. Et vous voyez que les personnages qui sont là ont des sceaux, parce que la fontaine qui était ici au XVIIe siècle a été déplacée juste à gauche du Collège de France. Elle a été déplacée là au début du XIXe siècle. La voici dans une photographie de d'Adjet au début du XXe siècle.
Et elle est où, cette fontaine, maintenant ?
Alors, cette fontaine, elle était donc sur la place de Cambrai, juste à gauche du Collège de France. C'était la fontaine où on s'alimentait en eau dans tout le quartier, en eau pure, puisque l'eau des puits était souillée. Elle était là. Vous allez tout à l'heure sortir et la voir, puisque lors des travaux des bâtiments de physique, dans les années 1930, elle a été déplacée et elle se trouve aujourd'hui, la voici dans un dessin de 1863. Vous voyez qu'elle est toujours à gauche de l'entrée.
Et je vous rappelle que vous n'avez pas le droit de sortir tout de suite.
Et la voici, vous irez la voir dans la cour tout à l'heure, cette fontaine. Elle est dans la cour, elle n'est plus alimentée en eau. Aujourd'hui, il n'y a plus ces petits arbustes dans la vasque. Mais sans doute que le mascaron qui est là, c'est le mascaron de la fontaine originale qui était sur la place et qui date du XVIIe siècle. Ce mascaron en bronze qui représente un homme moustachu, c'est tout à fait typique des fontaines de Paris qui ont été construites au début du XVIIe siècle. Donc on a encore cette petite trace de la vieille fontaine qui était derrière la fontaine Saint-Benoît, qui était derrière l'église Saint-Benoît. Je crois qu'on peut aller la voir dans le circuit qui est prévu. Vous pouvez aller la voir. C'est amusant de voir cette petite trace qui a été conservée donc, dans les travaux des années 1930 des bâtiments de physique et de chimie qui sont un peu plus loin dans la rue. Donc le Collège de France était dans un quartier très populaire. Le bâtiment de Chalgrin date de la fin du XVIIIe siècle, et ensuite l'extension du Collège de France, c'est la monarchie de Juillet, les années 1830-1840. Voilà des dessins qui nous montrent l'extension de 1830-1840. Vous voyez qu'il y a le bâtiment de Chalgrin initial, et puis il est prolongé jusqu'à la rue Saint-Jacques. Vous voyez qu'à gauche, on a toujours la fontaine.
Voilà, un mot peut-être sur le fonctionnement du collège dans ces années 1830-1840. Moi, j'ai du mal à saisir le rôle de présentation, de contrôle du collège qu'avait l'Assemblée des professeurs. Ils avaient le droit de présenter des professeurs aux autorités publiques ou bien c'était les autorités publiques qui les nommaient ?
Non. Dans les années 1830, c'est-à-dire la monarchie de Juillet, le régime était très libéral à l'égard du Collège de France. Autrement dit, lorsqu'il y avait un départ, mais n'oublions pas qu'on ne quittait le Collège de France que par décès à l'époque. Il n'y avait pas d'âge de la retraite. C'était une époque heureuse. On pouvait rester.
Vous avez noté, monsieur l'administrateur.
On pouvait rester aussi longtemps que. On pouvait aussi se faire suppléer, c'est ce qu'on ne peut plus faire. Hein. On pouvait à la fois rester jusqu'à ce
pas
que
d'âge.
L'on s'en suive, et on pouvait se faire suppléer en rétrocédant une partie de son traitement. Mais dans ces années de 1830-1844, de la vaste extension du collège, qui a doublé de surface, tout ce que vous voyez jusqu'à la rue Saint-Jacques, ça date des années 1830. Eh bien, le régime était libéral. Autrement dit, quand un professeur disparaissait, l'Assemblée des professeurs élisait n'importe qui à la place. Il n'y avait pas de continuité. C'est à partir du XIXe siècle, il n'y a pas de continuité des chaires. Donc, on commence à élire, selon l'évolution des disciplines, qui on veut lorsqu'une chaire est disponible.
N'importe qui, en cours d'économie politique, Michel Chevalier, Eugène Lherminier, oui. En cours d'histoire, vous avez cité Michelet. Et j'entends que, j'ai souvent entendu dire que des manifestations avaient lieu autour des cours, ou bien quand, sous le oui. Second Empire, il y a eu des révocations, peut-être autour des révocations, il n'y avait pas beaucoup de place pour manifester.
Alors, il n'y avait pas beaucoup de place, on manifestait dans les amphis, les chahuts. Il y a des chahuts dans les amphis. La leçon inaugurale de Renan, toutes les leçons inaugurales qui ne plaisent pas aux étudiants donnent lieu à des émeutes. Mais jusqu'à quand y a-t-il des émeutes ? Au fond, la période, à mes yeux, la plus sensible politiquement, curieusement, celle où le régime est le plus intervenu dans les nominations au Collège de France, quand ?
C'est la Deuxième République.
Comment ?
C'est la Deuxième République.
Non.
48, non ?
Non, c'est 1905.
Ah.
C'est la séparation. C'est au moment de la séparation que le pouvoir politique est intervenu dans les nominations du Collège. Bon, petite précision, donc, sous le décret qui établit les interventions du pouvoir dans les nominations au Collège, c'est un décret du prince-président de mars 1852. C'est ce qu'on appelle la présidence dictatoriale. C'est entre le coup d'État de décembre 1851 et l'Empire en 1852. Et il y a un décret pris donc par Louis-Napoléon Bonaparte en mars 1852 qui dit que lorsqu'une chaire est disponible au Collège de France, le Collège de France peut donner trois noms dans un classement. L'Institut donne trois autres noms, ou les mêmes, peut donner trois noms, et le président de la République peut nommer un de ces six noms ou un autre nom en 1852. En vérité, je n'ai pas trouvé encore d'intervention de Napoléon III en ce sens. Ce que pouvait faire le régime, c'était créer une nouvelle chaire.
Mais il a révoqué Napoléon III, non ?
Il a révoqué. Il a révoqué, mais il n'est pas intervenu pour nommer. En réalité, ce que pouvaient faire au XIXe siècle les régimes, c'était créer des nouvelles chaires. Si on créait une nouvelle chaire, on nommait quelqu'un. Mais ensuite, cette chaire revenait dans le pot commun. Et c'est ce qui explique l'augmentation du nombre des professeurs au XIXe siècle. Je vous ai dit, en gros, de 20 à 50, parce que le régime pouvait se permettre de nommer ainsi des professeurs. Mais il l'a fait, quand on prend la liste des professeurs nommés autoritairement par le régime, ben, souvent ce sont de très bonnes nominations. Ce ne sont pas des nominations fondamentalement politiques, mais beaucoup des disciplines nouvelles. Paulin Paris, professeur de Moyen-Âge, études médiévales, est une nomination du régime pour une nouvelle chaire.
Mais revenons au quartier.
Mais je vous disais, c'est quand même intéressant à savoir, là où le régime est intervenu, c'est 1903-1905, pour exclure les professeurs qui étaient un peu trop religieux. Alors, voici une gravure qui date de 1858.
Il y a des créneaux.
On voit que les travaux sont faits. Vous voyez que l'extension jusqu'à la rue Saint-Jacques est telle que vous la connaissez aujourd'hui, mais il n'y a pas encore la place, et vous voyez le dénivelé très important entre la place de Cambrai, dont vous voyez comme elle était étroite, hein, et le terrain qui, à ce moment-là, n'est pas construit.
Juste un mot, puisqu'on parlait du Second Empire, les travaux, c'est la rue des Écoles 1850, les années 1850.
Rue des Écoles 1853.
Puis le boulevard Saint-Germain.
Puis le boulevard Saint-Germain, haussmannien. Hein, la rue des Écoles la rue des Écoles est pré-haussmannienne, tandis que le boulevard Saint-Germain est haussmannien. Et vous voyez qu'en face, il y a les travaux de l'église Saint-Benoît qui a été détruite. C'est une gravure qui est publiée dans le musée français. C'est amusant, c'est un supplément du journal pour rire de Charles Philippon, le grand caricaturiste, avec un article sur le Collège de France. Et voilà une photographie de Marville, 1877, cette photographie, qui nous montre bien ce qu'était le collège. Donc vous voyez qu'il y a toujours la fontaine, avec l'eau ici, et le Collège de France qui est complètement enclavé encore, avec ses bâtiments qui vont jusqu'au restaurant, le Coupe-Chou, là derrière, là où on a aujourd'hui les bâtiments de physique construits dans les années 30. C'est une belle photo de Marville qui a beaucoup écumé ce quartier. Et ça, c'est aussi une photographie de Marville, de la même datée par la BHVP de 1877. Vous voyez qu'il n'y a pas encore la statue de Claude Bernard sur la place, mais un collège qui ressemble beaucoup à ce qu'il est aujourd'hui. Le portillon a déjà été fait dans la façade.
Et votre bureau, vous pouvez le montrer ?
Ça, c'est la fenêtre de mon bureau. Ouais. Et de mon bureau, vous voyez que je vois
le fronton. Enfin,
je vois le fronton. Je vous montrerai tout à l'heure la vue de mon bureau.
La vue, seulement.
Et voilà le chiffonnier qui rôde dans ce quartier, ramassant les chiffons avec son crochet le long de ses bornes qui tapissent les rues de Paris en très, très grande abondance.
Mais les bornes, ça sert, dites-vous, pour les cavaliers à monter sur leur cheval, pour les mères de familles nombreuses à abandonner leurs enfants, pour les
bornes,
prostituées
les ont beaucoup
à trouver un lieu de rendez-vous.
Dans le Paris du XIXe siècle, hein, c'est là où on pose son tas d'ordures, hein, qui est là. C'est là où on monte, c'est là où on se protège des voitures, on se protège dans le coin des bornes des voitures qui passent. C'est le lieu de la prostitution. La prostitution que nous associons au trottoir, avant les trottoirs, il n'y a pas de trottoir à Paris, est associée aux bornes. Et puis c'est là où on abandonne les enfants et c'est là où les chiffonniers trouvent les enfants et les emmènent aux enfants trouver. Voilà une rue juste à côté d'ici. Vous voyez que les rues sont vraiment très couvertes.
Mais attendez, ça, c'est la rue Galande. C'est pas
ça,
n'importe
c'est la
quelle
rue.
C'est une grande rue.
Comment ?
C'est une assez grande rue, la rue Galande au 18e.
Alors, je vous montre cette rue. Ça, c'est la rue Saint-Julien-le-Pauvre. Vous voyez,
au coin de la rue Galande. Galande.
La rue Saint-Julien-le-Pauvre, c'est très intéressant. Donc ça, c'est une photo de Marville, 1865. Et comme très souvent, Adjé est allé photographier les mêmes rues, retourner aux mêmes endroits. Donc ça, c'est une photo d'Adjé de 1899. Et vous voyez que les bornes ont disparu. Après les travaux d'Haussmann, les trottoirs ont été inventés et au lieu d'avoir un égout au milieu, on a les gouttières sur les côtés. Mais vous reconnaissez le fronton, le même fronton qui est là et là, et le même lure qui est là et là. Et vous voyez qu'au fond, il y a ce même bâtiment et que dépassent au-dessus de ce bâtiment les tours de Notre-Dame, n'est-ce pas ? Mais il y a des bâtiments le long du quai. Et voici une photo d'Adjé en 1923, 20 ans plus tard, Adjé qui est retourné aux mêmes endroits. Vous voyez que les trottoirs sont les mêmes, le fronton est le même, mais les bâtiments le long de la Seine ont été abattus et on voit très bien Notre-Dame, y compris cette flèche que nous ne voyons plus aujourd'hui. Notre-Dame est là et voici une photographie que j'ai prise récemment. Vous voyez que le mur de l'autre côté a été lui aussi abattu. Et vous voyez comment le quartier a été profondément changé, puisqu'on a le parvis devant Saint-Julien-le-Pauvre qui est libéré.
Des églises du quartier, il subsiste Saint-Séverin, Saint-Julien-le-Pauvre. Saint-Benoît, vous avez
Saint-Benoît
dit,
a
c'est
été
démoli.
Détruit.
On parlera tout à l'heure de Saint-Jean-de-Latran.
Saint-Jean-de-Latran a été détruit. Ce quartier était couvert d'églises. Hein. Il y avait des... à distance du Collège de France, il y avait... Je n'ai pas compté, mais une vingtaine d'églises, au moins, dans une toute petite circonférence. Voici le carrefour pris par Adjé, qui est à côté du collège. Ça, c'est le coin des rues Lanneau. Voilà le restaurant Le Coupe-Chou, pour vous donner une indication. Ça, c'est l'impasse Chartière. Ça, c'est le futur bâtiment de physique du Collège de France, le coin, et la rue Saint-Jean-de-Latran qui descend. Voilà comment était ce coin vu par Marville en, là aussi, 1865, avec les bornes. Et je vous le rappelle, c'était le coin de la grande pauvreté de Paris, le Puy Certain, il était là, devant ce quartier. Et voici la même photo, le même carrefour, pris par Adjé, puisqu'Adjé est très souvent retourné dans ces coins, en 1925.
Mais alors ces photos, même les plus récentes, ne montrent pas les personnes. Je vous cite là, sur le quartier. La bohème vagabonde, musicien ambulant, chanteur des rues, avaleur de sabre, danseur d'œufs, équilibriste, arracheur de dents, mâcheur de feu, marchand de verre cassé, de peau de lapin, ramoneur, ouvrier, poète, habilleuse de poupées, fabricant de boîtes d'allumettes et de boîtes à joujoux, laveur de chiffons, etc.
Mais
c'est une cour des miracles.
C'était dans la cour des miracles dont je vais parler dans un instant, qui était cette commanderie de Saint-Jean-de-Latran, qui était devenue un bien national au moment de la Révolution, qui a été vendue en lot. Et cette immense forteresse qui était là, eh bien, était devenue le repère de tous les petits métiers de Paris dont vous venez de lire la liste. Et c'est pourquoi ce quartier était l'un des plus sales de Paris. Alors voilà ce carrefour, cette fois-ci vu par Adjé, et ben, le voici aujourd'hui. Vous voyez qu'il n'a pas tellement changé. On a ce bâtiment moderne, pas très beau, là, qui est au coin de la rue, le restaurant Le Coupe-Chou, l'impasse Chartière, et la rue qui était là, eh bien, c'est la rue intérieure du collège aujourd'hui. Et vous voyez le bâtiment de physique. Les choses ont peu changé. Et voici ce qui était à l'arrière du collège, ça c'est en 1920, l'impasse Chartière, et l'impasse Chartière qui va vers Louis-le-Grand, la rue Fromentel, qui est maintenant et sur l'emprise du collège. Alors c'est très intéressant puisque si vous pouvez lire l'enseigne de ce magasin, c'est la Société d'épargne du Collège de France.
C'est-à-dire que le Collège de France s'intéressait au quartier ?
C'est-à-dire que le Collège de France, je n'ai pas eu, encore eu l'occasion de faire cette recherche, mais le Collège de France, clairement, devait s'intéresser au quartier et à la pauvreté du quartier. Ça, c'est de, ça date d'avant, juste avant la construction des bâtiments de physique, juste là derrière. S'intéresser à la pauvreté du quartier, salle réserve, repas de famille sur commande, salle du premier réservée pour société. On était dans un endroit très misérable. Mais nous disions tout à l'heure, lorsque je suis arrivé comme étudiant à Paris, à l'âge de 20 ans, le quartier de la place Maubert,
la Maube,
et les rues qui descendaient de la place Maubert vers la Seine n'avaient pas beaucoup changé.
La rue de Bièvre n'est pas ce qu'elle était aujourd'hui.
La rue de Bièvre n'était pas encore lotie par le président de la République, par le futur président de la République. Et quand on allait à la Contrescarpe, on avait toujours ces deux pôles autour de ce quartier, la Contrescarpe et la place Maubert et les rues qui descendaient vers la Seine, qui n'avaient pas encore énormément changé de ce que je vous montre là, qui date des années 1930.
Ce qui a donné lieu à toute une littérature fantastique, de fantastique sociale, quoi, sur la Maube. Il y a de très beaux livres. Enfin.
Ouais. Et voilà l'arrière du Collège de France, avant la construction du bureau de physique. L'illustration 1926. Vous voyez ce qu'il y avait ? Cette rue Fromentel, juste derrière, vous voyez dans quel état c'était. Hein ? Ça, c'était les laboratoires des professeurs, en 1926, hein, avant la construction de la physique. La façade du laboratoire de chimie minérale du professeur Matignon, rue du cimetière Saint-Benoît. C'est la rue qui est entre Louis-le-Grand et le Collège de France. C'était le collège en 1926. Heureusement qu'il a un peu changé depuis. Voici un plan donc, qui nous montre ce que c'était. Ça, c'est un plan de 1840. Vous voyez la place de Cambrai, l'emprise du Collège de France, la rue Fromentel, hein, c'est là d'où on voit le dos du Collège de France, la rue du cimetière Saint-Benoît, et vous voyez là l'immense quadrilatère de Saint-Jean-de-Latran, enclos Saint-Jean-de-Latran. Cette forteresse qui est là, qui va jusqu'à la rue des Noyers, la rue des Noyers qui occupe le boulevard Saint-Germain, qui sera remplacé par le boulevard Saint-Germain. On a là un château fort devant le Collège de France, avec une tour, voilà une gravure qui date de 1668, qui nous montre cet enclos Saint-Jean-de-Latran, avec l'église Saint-Jean-de-Latran. Et cet enclos est devenu véritablement ce que vous disiez, c'est Privat d'Anglemont, là, qui était l'ami de Baudelaire, dit que c'était un cloaque, un immondice. Et c'est là la citation que vous faisiez, où on avait tous ces petits métiers sordides parisiens.
Et vous citez Balzac qui dit que c'est le quartier le plus pauvre de Paris, celui dans lequel les deux tiers de la population manquent de bois en hiver, celui qui jette le plus de marmots autour des enfants trouvés et le plus de malades à l'Hôtel Dieu.
Voilà. Et alors ce quartier, bon, cette commanderie d'Ancien Régime qui était une forteresse, était devenu une ruine, et au milieu de cette ruine, il y avait cette tour.
Attendez, la commanderie n'est plus commanderie au moment de la Révolution, c'est un bien national.
C'est un bien national. Donc il est vendu par l'eau.
Par l'eau.
Et entre 1790, il est détruit en 1854, donc au moment de la construction de la rue des Écoles, et entre 1790 et 1854, c'est la cour des miracles, hein, en face du collège. Au milieu de cette cour des miracles, il y a cette tour. C'est la tour dont on a regretté lors de sa destruction qu'elle ne fût pas conservée parce qu'elle était comparée à la seule tour qui reste à Paris, qui est la tour Saint-Jacques. Certains disent qu'elle était aussi intéressante que la tour Saint-Jacques. Son nom, c'était la tour Bichat, parce que c'était là que Bichat faisait ses dissections, ce qui n'ajoutait pas à la propreté du lieu.
À propos de dissection, on y viendra, on en pratiquait aussi au Collège de France, mais c'est pour plus tard.
Les médecins avaient besoin de trouver des lieux libres où on les autorisait à faire des dissections. Et les dissections avaient lieu là. Bon, comment faisait-on les dissections à Paris à cette époque-là ? En allant déterrer les cadavres dans les cimetières. Hein. C'était ça, l'origine des cadavres pour les dissections anatomiques. On trouve ça dans beaucoup de romans, hein, la façon dont les cadavres étaient déterrés. Voilà, donc juste en face du collège, on voyait cette tour qui servait aux dissections. Et il y en a beaucoup de représentations parce qu'elle est très fameuse dans le Paris du XIXe siècle, la tour Bichat. Et j'aime bien montrer cette gravure parce que vous voyez cette belle gravure qui date de... elle date de...
De la fin du XVIIIe.
Oui, de la fin
un carrosse,
du début du XIXe. Enfin, vous voyez l'église Saint-Benoît, vous voyez le collège avec la fontaine. La fontaine est déjà là, donc c'est après 1810. Elle a été déplacée en 1810 là, donc c'est après. C'est plus que c'est l'Empire plutôt que la fin de l'Ancien Régime. Et vous voyez que cette place est tout à fait surdimensionnée dans cette
gravure. Oui, c'est une vue de l'esprit.
C'est une vue de l'esprit. La place n'a absolument pas cette largeur. Et on nous montre très discrètement l'enclos de Latran. Mais voilà une gravure qui donne un peu mieux les proportions. C'est à peu près vu de la fenêtre de mon bureau, hein, cette gravure. On voit l'arrière du fronton de la cour du collège et on voit la destruction de la tour Bichat. Donc c'est la tour Bichat dans l'enclos de Latran au moment de la destruction. C'est donc en gros
1854.
Autour des années 1850, la destruction. Façade sud de Saint-Jean de Latran. Et je crois que lorsque vous ferez la visite tout à l'heure, vous verrez une description de cette allégorie qui est le fronton vu depuis la cour du collège. C'est une allégorie de la science avec beaucoup d'objets.
Map-monde, de livres. Alors, moi, j'ai vu le bureau de notre compagnon, à privilège.
Alors, voilà ce qu'on voyait du collège jusqu'en 1854 dans ce quartier un peu misérable. Et ces hospitaliers de Saint-Jean de Latran n'étaient plus là. L'église est restée assez longtemps. Bon, ça, c'est le plan de Turgot qui nous montre bien comment était le quartier. Vous voyez le puits certain, qui était devant le restaurant Le Coupe-Chou, l'impasse Chartière. Vous voyez Collège de Plessis, Louis le Grand, la rue Fromentel, la rue du cimetière Saint-Benoît. Et voilà la place de Cambrai, le collège. Et voilà l'immense emprise de Saint-Jean de Latran qui est là. Ça, c'est le plan de Turgot. Le plan de Turgot, c'est le milieu du XVIIIe siècle.
Mais si on en revient au milieu du XIXe, on peut s'arrêter un instant pour réfléchir sur les inégalités à Paris et imaginer comment les professeurs du Collège de France ou les gens qui fréquentaient le Collège de France les voyaient.
Alors, au milieu du XVIIIe siècle.
Au milieu du XIXe
siècle.
Parce que Thomas Piketty fait un grand livre sur les inégalités et il raconte qu'au milieu du XIXe siècle, à Paris, 70% à 80% des gens mouraient sans laisser de patrimoine. Et il y a l'exemple du Père Goriot, enfin, qu'on a tous à l'esprit. La logeuse, Madame Vauquier, veut de l'argent parce qu'il doit plusieurs mois de loyer. Rastignac doit payer, et puis Rastignac doit payer les obsèques. Et la vente des pauvres hardes du Père Goriot ne suffit pas à payer les obsèques. Et Vautrin lui dit, l'important, c'est le patrimoine, c'est de constituer le patrimoine. Et on est au moment de la plus forte inégalité, peut-être.
Oui, alors la cohabitation des professeurs du Collège de France et de leurs voisins de l'autre côté de cette petite place. Bon, dans le livre, je fais l'hypothèse que c'est auprès d'eux que Claude Bernard se fournissait en chat et en chien pour ses dissections.
Alors ça, c'est un rapport.
Parce que Claude Bernard est célèbre pour ses dissections.
Donc il est manipulateur au fin des années 40, 1840.
Dans les années 40.
Dans les années 50.
Les expériences de Claude Bernard faites dans les laboratoires du collège, c'est dans les années 1840. Donc avant la destruction de Saint-Jean de Latran et le percement de la rue des Écoles. Et il faisait une très forte consommation de chiens et de chats. Bon, au point que sa femme l'a quitté, pour cette raison.
Claude Bernard... Et ses filles ont suivi l'exemple de sa femme.
Ses filles ont suivi l'exemple de sa femme. Sa femme et ses filles sont parties. Lorsque vous sortirez du Collège de France, vous verrez que de l'autre côté de la rue des Écoles, il y a une plaque sur l'immeuble qui est juste en face, que Claude Bernard a acheté, où il s'est logé plutôt comme locataire, parce qu'on louait plutôt à l'époque, au moment de la construction de l'immeuble, l'immeuble haussmannien qui a pris la place de Saint-Jean-de-Latran. C'est là que Claude Bernard a habité. Il y a d'autres plaques, d'autres professeurs du Collège de France. Si mes souvenirs sont bons, Jean Dossé a habité également dans cet immeuble. Claude Bernard habitait là, mais il habitait là tout seul.
Ben oui, parce que sa femme et ses filles sont allées louer une maison à Colombes où elles élevaient, dites-vous, 30 chats et 30 chiens.
Voilà, c'est ça. Elles ont loué une maison à Colombes où elles ont eu un procès intenté par leurs voisins parce que dans cette maison, il y avait 30 chats et 30 chiens. Donc c'est comme ça qu'elles se sont vengées de Claude Bernard. Mais je pense qu'il y avait, en effet, un rapport de va-et-vient entre un côté et l'autre de la rue de Cambrai du temps de Claude Bernard.
Parce que c'est la grande époque de l'expérimentation au Collège de France. Il y a l'expérimentation sur le mouvement, Marais. Il y a l'expérimentation, la psychologie expérimentale, la phonétique expérimentale.
Oui.
Peut-être on utilisait d'autres habitants du quartier pour ces expérimentations.
Moi, je ne suis allé que jusqu'à Claude Bernard et les chats et les chiens, mais je voudrais vous citer cette... phrase dans la leçon inaugurale de Claude Bernard, donc 1857, on vient de détruire le clos de Latran. Claude Bernard succède à Magendie, qui était son maître ici, et il dit ceci, dans « Chacun, disait Magendie, se compare dans sa sphère à quelque chose de plus ou moins grandiose, à Archimède, à Michel-Ange, à Newton, à Galilée, à Descartes. Louis XIV se comparait au soleil. Quant à moi, je suis beaucoup plus humble, je me compare à un chiffonnier. Avec mon crochet à la main et ma hotte sur le dos, je parcours le domaine de la science et je ramasse ce que je trouve. » Donc, vous voyez que Magendie travaillait comme un chiffonnier. Encore, dans les années 1840, c'est ce que refuse Claude Bernard en inventant la méthode expérimentale. Claude Bernard ne veut plus travailler comme un chiffonnier. Il dit ceci en 1857. Et c'est donc, au fond, un moment de bascule vers un autre paradigme scientifique.
Mais vous effleurez l'hypothèse d'une parfaite indifférence des professeurs du Collège de France au quartier où ils enseignent ? Il me vient une comparaison, elle est idiote, mais on installe beaucoup de centres universitaires et de lieux de recherche sur le campus Condorcet, au métro Front Populaire à Aubervilliers. Et des directeurs d'études, de l'école des hautes études, paraît-il des spécialistes de sociologie, et du monde populaire disent « Oh là non, non, c'est beaucoup trop loin, nos amis étrangers ne viendront jamais jusque-là ». Et alors on leur dit « C'est formidable comme quartier, c'est un vrai chaos urbain ». Le métro Front Populaire, vous avez des Chinois qui ont pris le relais du sentier, vous avez des Roms un peu partout, vous avez des Capverdiens qui font de la musique. Et les professeurs de sociologie de l'école des hautes études, certains d'entre eux disent « Non, non, le peuple, il est plus loin, c'est pas là qu'il faut aller ». Est-ce qu'il y a quelque chose de comparable ?
Écoutez, je n'ai pas trouvé de trace pour le moment de collaboration entre professeurs du Collège de France et habitants du quartier. Je n'en vois pas qui, par exemple, ait été candidat aux élections municipal, hein, alors qu'il y avait des professeurs du muséum. Il y en a un qui est assez célèbre, Quatrefages, qui a écrit beaucoup de rapports sur la pauvreté dans le quartier. Donc il y a eu des professeurs du muséum, qui est pas très loin. Le muséum est concerné par les mêmes problèmes que le Collège de France, et Quatrefages est un des célèbres professeurs du muséum à avoir beaucoup écrit de rapports sur la pauvreté dans le quartier. Il est l'un de ceux qui réclament le percement de la rue des Écoles, par exemple. Mais je ne vois pas de professeur du Collège de France qui soit intervenu dans ces années-là dans les débats qui sont très très nombreux sur l'absence d'hygiène de ce 12e arrondissement.
Parce que ce premier 19e, c'est l'époque des grandes enquêtes ouvrières,
oui.
De statistiques. On est passionnés sous la monarchie de Juillet par les statistiques. C'est curieux que les professeurs du Collège de France n'aient pas participé de ce mouvement.
Frédéric Leplay n'est pas au Collège de France. Ouais. On a de grandes statistiques sur tous les petits métiers parisiens faites par lui. Vous citiez Michel Chevalier. Je ne pense pas que...
Saint-Simonien, oui. Non, mais il était devenu très libéral quand il est devenu professeur libéral. Du Collège de France.
Il faudrait regarder... c'est une idée. Il faudrait regarder si... Je pense que c'est lui, puisque c'est l'économiste du Collège pendant cette période. Il faudrait regarder s'il est intervenu dans les débats sur la pauvreté du quartier.
Non, parce qu'il était plus préoccupé de liberté, comme beaucoup de professeurs du Collège de France, que d'égalité.
Et Laboulé, grand juriste, qui est administrateur du Collège de France plus tard... Je ne pense pas qu'il soit, lui non plus, intervenu dans les débats sur la misère de ce quartier.
On finit votre panorama, Antoine Campagnan ?
Alors, je voulais vous montrer, voilà ce qui est devenu, ça c'est les derniers restes de l'église Saint-Jean de Latran. Vous voyez que le collège est tel quel, que tout l'enclos de Saint-Jean de Latran a été détruit et qu'il reste seulement l'église. L'église au milieu de cette commanderie. Si vous descendez cette rue tout à l'heure en quittant le collège, qui est maintenant la rue Thénard, vous verrez que le site de l'église, c'est celui de l'école primaire, qui est au coin de la rue Thénard et de la rue, j'oublie comment elle s'appelle, mais on voit bien que ça correspond exactement au site de l'école, qui n'est d'ailleurs plus une école maintenant, mais je crois un dispensaire. Cette église Saint-Jean de Latran, dans son terrain vague, on la voit très souvent représentée. Voilà un plan du quartier qui nous montre exactement, ça c'est dans un ouvrage de la fin du XIXe siècle, vous voyez exactement l'emprise de Saint-Jean de Latran entre la rue des Noyers et la place de Cambrai et le collège, avec le vieux bâtiment que je vous montrais tout à l'heure, qui était encore un bâtiment très ancien, qui était encore un bâtiment des sciences expérimentales, là. Et voici, après les travaux d'Haussmann, ce que devient... le quartier, le Collège de France, qui a toujours ce vieux bâtiment là derrière, qui sera détruit seulement dans les années 1930, et l'emprise de la rue Thénard, à la rue du Sommerard. C'est donc là où vous avez l'église, le site de l'église occupé par une école.
Et la Sorbonne est dans son état ancien. La Sorbonne que nous connaissons, c'est 1880, les années 80.
Je vais vous la montrer, construction. Voilà, rue du cimetière Saint-Benoît qui donnait sur l'église Saint-Benoît. Là, elle est déjà détruite, mais ce n'est pas encore la Sorbonne. Voilà un plan aussi très intéressant qui nous montre ce qu'on avait imaginé sous la monarchie de Juillet. Donc, vous voyez que sous la monarchie de Juillet, dans les années 1840, l'emprise du collège a doublé. L'emprise du XVIIIe siècle est devenue l'emprise de la monarchie de Juillet jusqu'à la rue Saint-Jacques. Et voilà Saint-Jean de Latran, qui occupe cet immense terrain. Vous voyez que c'est 4 fois ou 5 fois plus grand que le collège. Le collège totalement enclavé. Et voici l'un des plus beaux projets pour occuper Saint-Jean de Latran. C'est le projet de Bibliothèque nationale. 1839-1844. Vous voyez que l'îlot qui formait jusqu'à la rue des Noyers, futur boulevard Saint-Germain, est occupé par la Bibliothèque nationale qu'on aurait déplacée de la rue de Richelieu jusqu'ici. Vous imaginez le bel ensemble que cela aurait fait. Collège de France, qui depuis a gagné tout ce terrain-là, plus Bibliothèque nationale.
Parce que la monarchie de Juillet a des grands projets sur Paris.
Des grands projets.
Avec le préfet Rambuteau. Simplement, il lui manque les moyens politiques pour les appliquer, parce que ce n'est pas une dictature.
Oui. Ils ont beaucoup de mal à exproprier. Il a été très difficile d'exproprier pour obtenir cette partie-là du collège dans les années 1830. Alors, vous voyez le bel ensemble qu'aurait fait Collège de France pour Bibliothèque nationale. Ce qui nous rappelle qu'au XIXe siècle, le Collège de France et la Bibliothèque nationale étaient inséparables et que de nombreux va-et-vient avaient lieu entre ces deux établissements. La Bibliothèque nationale était en quelque sorte le CNRS des sciences humaines pour le XIXe siècle. On passait de la Bibliothèque nationale au collège dans toutes les disciplines de l'archéologie et de l'orientalisme. Et de, je citais tout à l'heure Paulin Paris, fondateur des études médiévales au Collège de France, venant de la Bibliothèque nationale. Donc le va-et-vient était constant entre ces deux institutions au XIXe siècle. Et je crois que ce plan nous montre bien ce qu'aurait pu être un établissement. On n'aurait pas eu besoin de déplacer la Bibliothèque nationale jusqu'à Tolbiac si on l'avait créé ici, entre le Collège de France et le boulevard Saint-Germain. Très beau projet qui, malheureusement, n'a pas été réalisé. Et voici quelques photographies, puisque vous parliez de la Sorbonne, la construction de la Sorbonne. Alors ça, ce sont des photographies qui sont passées en vente il y a quelques mois à Drouot, photographies d'Hippolyte Blancard, c'est un photographe de la Commune, quelqu'un qui a beaucoup photographié la Commune. Et voici une belle photographie où on voit la rue des Écoles, le Collège de France qui est donc déjà construit avec son escalier et ses jardins, et la nouvelle Sorbonne en construction.
Mais je ne veux pas dire, dans le rapport de force, il y a toujours eu un rapport de force entre la Sorbonne et le Collège de France. Là, la Sorbonne prend l'avantage.
La Sorbonne est monumentale dans cette photographie que vous voyez, mais il y a toujours eu tout de même, là aussi, un va-et-vient, mais je dirais plutôt dans un sens que dans l'autre, entre la Sorbonne et le Collège de France.
Alors ça, c'est une vous l'avez illustré vous-même.
C'est une belle photographie qui nous montre ce rapport, cette construction de la Sorbonne juste à côté. Voici encore une photographie de cet Hippolyte Blancard de la même année. Je soupçonne que c'est 1889, construction de la Sorbonne. Voilà la même série de photographies. Vous avez la sculpture de Claude Bernard, celle qui a été fondue sous l'occupation.
Et qu'est-ce qu'il y avait qui ornait cette statue ?
Il y a la table de dissection, là, qui est juste derrière Claude Bernard, avec, me semble-t-il, un chien sur la table. C'est une photographie qui serait aujourd'hui tout à fait proscrite. Donc elle a été fondue en 1941, et bien sûr, vous savez qu'elle est remplacée par une sculpture de pierre où il n'y a plus de table de dissection. Voilà la table de dissection qui est là, derrière Claude Bernard. Vous voyez toujours la fenêtre de mon bureau que je revois dans chaque photographie avec un certain plaisir qui vous donne la vue que j'ai de mon bureau sur le dos de Claude Bernard. Voilà une très belle aussi photographie qui nous montre la statue de Dante dans le petit jardin qui s'appelle aujourd'hui Square Michel Foucault. Et on voit que les arbres ont été plantés récemment. Aujourd'hui, ils sont beaucoup plus gros. Alors, c'est très intéressant parce que sur cette photographie, il y a des affiches. C'est sur le pavillon qui fait le coin du collège. C'est rempli d'affiches. J'étais un peu troublé par ces affiches. Je me suis demandé si on mettait les annonces des cours des professeurs encore
en français, plus en latin.
À cette date-là, et mettait-on encore les affiches des cours des professeurs ? Et en agrandissant la photographie, j'ai pu lire les noms qui sont sur ces photographies, et j'ai trouvé des noms qui ne correspondent pas à des professeurs du Collège de France, mais à des candidats aux élections municipales de 1889. Donc c'était les candidats aux élections municipales dans le 5e arrondissement. Bon, c'est intéressant pour les historiens parce que cette élection municipale, en voici, il s'appelle Léveillé et Deschamps, et voici les résultats. C'est intéressant. Donc c'est Deschamps qui a été réélu contre Léveillé, c'était ça les affiches. Mais regardez ce qu'il y avait au-dessus, c'était le même jour que l'élection de Boulanger, le 27 janvier 1889, date mémorable où, ce soir-là, Boulanger a marché sur l'Élysée. Donc c'est ce jour-là qu'on avait ces affiches qui nous montrent bien ce qu'était donc ce collège de 1889. Voici une gravure de la statue de Dante, toujours devant le collège. Et on évoque peut-être
oui, on va
très
finir,
brièvement.
On va finir avec un événement que vous ignorez peut-être, dont moi je n'avais pas vraiment connaissance. Je savais que sous le Second Empire, l'archevêque de Paris, je crois à Saint-Étienne-du-Mont, pendant une cérémonie, avait été assassiné. C'était un sacrilège. Qui plus est, il était assassiné par un ancien prêtre. Eh bien, au Collège de France, en 1901, tenez-vous bien, sacrilège.
Oui, alors c'est...
Pendant un cours.
Dernier épisode sur lequel je voudrais terminer. Donc, voilà, dans cette... Dans l'illustration, cette image du Collège de France, une autre image du même numéro d'illustration, c'est celle-ci. C'est celle d'Émile Deschanel donnant son cours dans l'amphithéâtre du Collège de France. Cet amphithéâtre, c'est très probablement celui qui était derrière la fontaine, hein, juste... partie qui n'existe plus. Je vous avais montré où était cet amphithéâtre.
Je ne veux pas dire, mais il n'est pas tout jeune et il a un grand succès féminin.
Alors, vous ne savez plus qui était Émile Deschanel, mais je vais vous le rappeler en trois mots. Émile Deschanel, c'était le père de Paul Deschanel, président de la République mémorable. Hein, c'est celui qui est tombé du train en 1923, si mes souvenirs sont bons.
Oui, même un peu avant, je crois.
21.
Mais en gardant son pyjama propre.
En gardant son pyjama propre. Donc, Émile, le père de Paul Deschanel, et il joint, c'est un personnage important pour l'histoire, Émile Deschanel était condisciple de Baudelaire au lycée Louis-le-Grand, juste à côté. Et voici ce que disait Baudelaire de lui. Bon, vous voyez que ça n'a pas empêché de devenir professeur au Collège de France et d'y rester longtemps. Baudelaire écrivait à son notaire Narcisse Ancel, « Vos lignes sur ce joli pédant m'ont mis en fureur. Songez en général, qu'en général, l'erreur me cause des crises nerveuses. Et vous avez été assez enfant pour aller écouter ce petit bêta de Deschanel. Le professeur pour demoiselle. » C'est mon prédécesseur.
Parce que quelle chaire occupait-il ? Les chaires ne sont pas...
Littérature française.
Sont variables, mais oui, littérature française, comme vous.
Démocrate qui ne croit pas au miracle et qui ne croit qu'au bon sens. Parfait représentant de la petite littérature, petit vulgarisateur de choses vulgaires. Et vous avez été assez enfant pour oublier que la France a horreur de la vraie poésie, qu'elle n'aime que les saligots comme Béranger et Musset. Voilà ce que Baudelaire pensait donc de cet Émile Deschanel. Émile Deschanel, qui est un 48art, qui a été en exil en Belgique sous le Second Empire et qui a été récompensé en devenant professeur au Collège de France à son retour, qui est député et qui est sénateur inamovible. Donc c'est un grand ponte de la Troisième République.
Que et ça lui fait Deschanel. Quel âge en 1901 ?
Ben, il a 80 et quelques.
Ah, on ne prenait pas sa retraite au Collège de France.
Il n'y a pas d'âge de là.
Vous avez compris, monsieur l'administrateur.
Il a 80 et quelques, il fait toujours son cours. Et à la sortie de son cours, une jeune Russe se dirige vers lui et le révolvérise. Et je crois que c'est la seule tentative d'assassinat qui a eu lieu au Collège contre un professeur par une jeune auditrice. Cette jeune Russe était étudiante en lettres à Paris, hein, comme beaucoup de jeunes Russes qui venaient étudier les lettres à Paris, et elle est venue assister au cours d'Émile Deschanel. C'était un cours célèbre, c'était un cours important à Paris, et elle a cru reconnaître en ce vieux monsieur un homme qui l'avait abordé dans la rue, harcelé, comme on dit aujourd'hui, qu'il avait harcelé quelque temps auparavant. Donc, depuis ce harcèlement, elle se promenait avec un revolver, croyant le reconnaître, elle l'a attendu à la sortie de l'amphi.
Et c'est là que ça va se compliquer.
Et elle était là avec une amie, une autre étudiante russe qui s'appelait Zélinine, mademoiselle Zélinine, et Zélinine s'est précipitée pour détourner le revolver, et c'est elle qui a été blessée et qui, malheureusement, est morte à l'Hôtel Dieu après 3 mois de souffrance.
Vous avez une photo du procès ?
Alors, oui, le procès est très célèbre. Hein, vous le trouverez dans toute la presse contemporaine. Regardez la presse de 1901, depuis l'attentat a lieu au début de janvier 1901 et Mademoiselle Zélinine mourra le 4 avril, donc il y a 3 mois entre la blessure et la mort. Et pendant les 3 mois, la presse ne parle que de ça. D'autant plus que Paul Deschanel, le fils d'Émile, est le président de la Chambre des députés dans ces années-là. Donc, la Chambre des députés envoie des fleurs à Mademoiselle Zélinine. Voici le petit journal, photographie de Vera Gélot, qui rend visite à l'Hôtel Dieu à son amie. Elle est en prison. Elle est en prison à Saint-Lazare. Elle rend visite à son amie qu'elle a blessée. Émouvante confrontation, Mademoiselle Zélinine et Vera Gélot. Et puis voici le procès de Vera Gélot en cour d'assises. Elle sera acquittée. Elle sera acquittée de la mort de son amie et elle partira aussitôt le lendemain pour la Russie avec le frère de Vera Gélot qu'elle épousera. Elle l'a rencontré.
Le frère de Zélinine.
Le frère de Zélinine, pardon. Oui, oui. Elle épouse le frère...
N'ajoutez pas un inceste, si vous voulez bien.
Elle épouse le frère de Vera Gélot, qu'elle a rencontré au chevet de son ami. Et voici le brave Émile Deschanel lors du procès en cour d'assises. Je crois que c'est la seule tentative d'assassinat qui ait eu lieu au collège. À ma connaissance, il n'y en a pas eu d'autres. Mais je pense que beaucoup des professeurs du collège devraient réfléchir en sortant de l'amphi que ben, cela peut arriver à tout moment. Et heureusement, peut-être que nous n'allons plus jusqu'à 83 ans.
Oui, parce qu'Émile Deschanel n'a pas continué longtemps après cet accident.
Émile Deschanel, apparemment, ne s'est pas bien rendu compte de ce qui lui était arrivé. Il est rentré chez lui. Et c'est seulement une fois chez lui qu'il a compris qu'on avait tenté de l'assassiner. Et je crois qu'il a renoncé à son enseignement peu après. Mais vous voyez que là, on est en 1901, que tout ce qui est derrière le collège, à l'est et au nord, est encore misérable. Et le sera au moins jusqu'aux années 30 et à la construction des bâtiments de physique qui occupent le reste du pâté de maison. Et comme on le disait, lorsque nous sommes venus dans ce quartier comme étudiants...
La Maube cernait encore la place Maubert, ce qu'on appelait la Maube cernait la place Maubert. Mais maintenant, vous avez le vieux campeur. Hein. 30 unités.
Le vieux campeur, vous voyez que vous pouvez aussi considérer que le vieux campeur occupe à peu près tout l'enclos Saint-Jean-de-Latran. Hein,
voilà.
Il occupe tous les frontons et tout l'intérieur, puisque les rues intérieures sont aussi des succursales de Saint-Jean-de-Latran. C'était le destin de Saint-Jean-de-Latran de devenir le vieux campeur.
Merci à vous, Antoine Compagnon. Un cours au Collège de France ne s'embarrasse pas de conclusion, il n'y en aura pas.